Amen.
Amen.
Alléluia. Amen. Il y a un verset dans la Bible qui dit que en Dieu, Dieu est lumière.
Amen.
Et en lui, il n'y a aucun ténèbre.
Amen.
Donc physiquement, nous sommes dans les ténèbres, mais en fait, nous sommes dans la lumière.
Amen.
Amen. Parce que Dieu est avec nous. Amen. Il y a aussi une chanson que vous connaissez peut-être en anglais. Je ne sais pas si elle est en français, mais elle parle de la Nouvelle Jérusalem.
Il y a
une strophe qui dit que, regarde, on a, il n'y aura pas besoin de, ni de lampe, ni de soleil, ni de lune pour rendre clair. La ville. Amen. Parce que ici, il n'y a pas de nuit. Il n'y a pas de nuit. Donc, dans la Nouvelle Jérusalem, on n'aura pas besoin ni de ni d'électricité, ni de lumière artificielle, ni de lumière naturelle. Mais Dieu et la lumière, Amen. Amen. Et l'agneau en est la lampe, n'est-ce pas? Amen.
Amen.
Donc on va voir ce soir si nous pouvons avoir une réunion, un rassemblement dans les ciels, dans les cieux, n'est-ce pas?
Amen.
Céleste. Amen. Quoi que nous soyons sur la terre. Amen.
Amen.
Donc ça fait assez longtemps que je suis parmi vous, peut-être un an et demi. Je m'excuse. Mais je n'ai pas pu venir à cause des circonstances l'année passée. Je me suis j'ai déménagé de Montréal à Chicago. Montréal au Canada.
Montréal au Canada, Nibadi.
Chicago aux États-Unis.
Chicago elle, America, Nibadi.
Parce que ma femme habite à Chicago avec nos enfants.
Elle a besoin de Chicago au Leclerc, Nianvio.
Et donc nous étions séparés.
Et comme un miècle
physiquement.
Miècle le mouti là.
Bien que nous parlions au téléphone presque tous les jours. Mais finalement, avec l'arrangement du Seigneur, la direction du Seigneur et aussi la communion des autres frères, j'ai décidé de partir pour les États-Unis. Bien que les saints à Montréal soient très chers, n'est-ce pas, soient très précieux pour moi. Donc je reste en communion avec eux par téléphone. Mais je sers la vie de l'église, je sers l'église à Chicago actuellement. Donc, cette année passée, l'année passée, c'était une année de transition pour moi. De changement. Amen. Et donc, mais le Seigneur, grâce au Seigneur, le Seigneur était avec nous, avec nous, et puis le Seigneur nous a dirigés. Nous a amené, m'a amené à Chicago, m'a ramené à Chicago. Et je suis là actuellement. Donc finalement, le Seigneur m'a permis de venir. Être avec vous. Amen. Donc j'apprécie beaucoup l'opportunité d'être parmi vous.
Amen.
Amen. Donc cette semaine, ce week-end et puis la semaine prochaine, si le Seigneur nous le permet, nous allons aborder un sujet qui est très pertinent, très pertinent à notre condition, à notre vie de l'Église. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché au fur et à mesure que je lis l'Ancien Testament. Surtout les livres de Jérémie,
Gaou, Jérémie Agbalé,
de Daniel,
Daniel
et d'Esdras, de Néhémie, Esther,
Esther Agbalé,
et même tous les prophètes, tous les prophètes. Esaïe,
Esaïa,
Jérémie bien sûr,
Jérémia,
Ézéchiel,
Ézéchiel,
et puis les 12 prophètes mineurs. Vous vous souvenez de ces prophètes? Si vous vous souvenez, il y a peut-être 2 ans, on a eu une sorte de formation là où on a mémorisé. Surtout pour les jeunes, on a mémorisé tous les livres de la Bible. Voilà, et peut-être les livres, les 12 prophètes mineurs sont les plus difficiles. Bon, mais surtout Agé, le prophète Agé et Zacharie. Et Malachi. Ces trois derniers prophètes, de l'Ancien Testament sont très pertinents. Leurs paroles nous touchent. Leurs paroles s'adressent à nous actuellement. Et donc le prophète Agé, il peut s'écrier, par exemple. Et son cri, n'est-ce pas, perce notre cœur, notre vie même. Par exemple, il dit, pourquoi est-ce que vous vous occupez de vos propres maisons? Tandis que la maison de Dieu reste
vide,
reste, n'est-ce pas, non construite. Vous habitez dans des quoi, dans des maisons fermées. Mais la maison de Dieu reste. N'est-ce pas, c'est comme un désert. Vous travaillez, n'est-ce pas, et vous mettez tout ce que vous gagnez dans vos poches. Mais le problème, c'est que vos poches ont des trous. Et donc tout ce que vous gagnez tombe. Et vous n'avez rien. Après avoir œuvré, travaillé, jour et nuit. Et donc vous n'avez plus rien à donner à l'Éternel. En fait. Et donc il a crié, levez-vous. Montez, n'est-ce pas? La montagne. Apportez du bois. Et baptisez la maison de l'Éternel.
Amen.
Donc ça c'est un peu âgé, n'est-ce pas? Il est très fort. Il est très direct. et donc voilà un peu un avant-goût de ce que nous allons aborder
cette semaine.
Voilà. Donc, j'espère que dans la vie de l'Église, il y aura beaucoup d'âgés. qui vont parler, qui vont prononcer la parole de Dieu directement pour nous encourager et pour nous fortifier. Pour nous réveiller de notre sommeil. Amen. De mon sommeil.
Parce que
n'est-ce pas? Donc nous sommes tous, n'est-ce pas, responsables. Nous sommes tous devant le Seigneur pour son éclaircissement.
Amen.
Amen. Donc les grandes lignes ce soir, vous pouvez être en paix. Vous n'aurez pas besoin de lire les grandes lignes parce que c'est pas possible. Donc ce soir, moi je vous lirai un peu des versets, peut-être quelques versets. Et si vous avez une lampe de poche ou de la lumière, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez suivre aussi. Bon, donc on va commencer à lire des versets de Jérémie.
Jérémie,
chapitre 2.
Jérémie,
verset 1 au verset
13.
Donc, moi je peux lire. Est-ce qu'il y a. Est-ce que. Ok. Comme là, tu as les versets en éveil, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que tu peux lire? Verset 1 au verset 13. Donc peut-être ce qu'on va faire, c'est que Frère Komla va lire les versets en éveil. Et comme ça, tout le monde peut comprendre. Ok, est-ce que c'est lisible?
C'est lisible.
Ok.
Est-ce que tu commences?
Ok. Allez, oui, vas-y. Oui.
Hey, Yéro Apogbe, va bonye bena, y dadogbe fa. Il a de pas de Jérusalem
pour
me bena à l'aïeau à Glorici. Mido, Miro, Mendon, wo de Tubim, Domagno, Blao, Mbeton, Pelolonao, Esime, Mploro, To, Bedada. Esi mama nakblom to bedada fo to anyigba sidi o ma fa nuro o
Amen.
Yo afa yo aba Israel le kokoena Yehowa
Amen.
Afa agblemanu gba to o onye amesi o kata duila bwa Boede enu jogbevueva oji mi Jacob fe afe ple Israel fe afe fe fomiao kata mise Yehowa fe nya ale Yehowa gblo esi nu manyo kamia fofo pole unye Ba wode magbe le ngunya eye oje yanuo yoma Alléluia.
Amen.
Et yo jay yanuo yoma hezu tofloko eye o magblo ba afika yehowa amesi kplo mi cho egypte nyigbaji lale ra o eya amesi kplo mi to gbeji to kuriri nyigba ble bluko chiri chiri ba fa anyigbaji to anyigba siji amia deka ma tona o afisi amegbeto deka me le o laji eye me kplomi va anyigba wonuji be madu efe be miadu efe kuchecheo bele efe nunyo ke miao mieva he dogu nye anyigbala eye miecho nye domeninu la wo nunyo nui nu nolao megblobe afika yehowa le ha o Amesio si me se la le la menyam o eye la kplovio je aglade ngunye nya gblo dilao gblo nya dile bal pe nkom eye wo je nusio mel deke me o la yome Yehowa be eyata magawo jire kli mi eye ma wo jire kli mia ziwo niyi kiti towo fa fukpoji eye mikponu miro ame de keda eye miro nku anyigba nyue miro nku anyi nyue ne miakpo be esia togbe jo poma ha de ku de dukwa de doli efe ame de dukwa de doli efe mawa
amen
Mawa evo wonye menye mawu wonye ohafi ke nye dukɔ ya cho efe nguti kokwe broli nusi mele deke me o le Yehowa be jipo miafe nu neku le esiata miafe lame ne ble fu eye miafe mo ne wo ya elabena nye dukɔ wo vo pomevi eve wo gble nye amesi nye ti gbagbe vudo ladi Bewade chido na wawo muto dokwi chido siwo goma ngo chin matengu anno woma o amen
merci
oui
ah c'est donc ça c'est Jérémie oui.
Et Yanya Jérémie.
Il est si vous lisez le livre de Jérémie.
Mais Jérémie avait abalakhlama.
C'est un livre très très émotionnel.
Enye abalé wana dola meji.
Et c'est comme si Dieu criait.
Le kolaba maula fa dum ene.
On peut voir le cœur de Dieu, l'angoisse du cœur de Dieu. Et Dieu déborde son angoisse. À travers le prophète Jérémie. Donc Jérémie, on l'appelle le prophète qui pleurait. Parce qu'il était vraiment bouleversé par la condition du peuple de Dieu. Donc quand nous lisons Jérémie, est-ce que nous pleurons? Est-ce que moi je pleure? En lisant ce livre, amen. En lisant ce livre, est-ce que je suis touché par le sentiment de Dieu, l'angoisse de Dieu? Et est-ce que je suis touché par ma propre condition? Donc Jérémie, c'était comme une voix, une seule voix qui criait. Mais le problème, c'est que les gens qui l'écoutaient n'étaient pas touchés. Si vous lisez ce livre, vous serez étonné par l'indifférence du peuple. Ils étaient contents. Ça va, tout va bien. Nous sommes satisfaits. Pourquoi tu viens parmi nous?
Oh, nous
déranger. Nous troubler. Nous apporter de mauvaises nouvelles. Nous voulons de bonnes nouvelles. Alors, viens dire quelque chose de positif. Et donc Jérémie, toujours, il a fait face à cette attitude. Même on l'a appelé traître. Bon, on a dit, toi tu es traître. Parce que tu n'es pas pour ton pays. Tu dis que tout le peuple doit rentrer en captivité. Quoi? Tu ne veux pas résister? Tu ne veux pas battre? Et Jérémie a dit non. Non, ne résistez pas. Laissez-vous, n'est-ce pas? Laissez-vous aller en captivité. Après 70 ans, Dieu va vous ramener. Non, toi tu es traître. Toi. Tu n'es pas patriote. Patriote, bon patriote. Alors, tu es même un faux prophète. Et donc, il y avait d'autres prophètes, n'est-ce pas, qui se sont levés pour contredire Jérémie. Et puis Jérémie a dit, d'accord, ok, Dieu va régler tout. Si ta prophétie, c'est vrai, d'accord, Dieu a parlé à travers toi. Mais c'est Dieu qui va. Et puis Jérémie, c'est peut-être le prophète après Ézéchiel. Ézéchiel et Jérémie, c'est deux prophètes.
Jérémie et Ézéchiel va.
Qui ont vécu une vie dure, très dure, pas juste, on peut dire, pas juste. C'est pourquoi est-ce que Dieu a traité ces deux prophètes comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a permis à ce que ces deux prophètes passent par des épreuves, des tribulations. Extraordinaire. Jérémie, on l'a mis dans un puits, n'est-ce pas, debout. Comme châtiment, n'est-ce pas? On a essayé de le tuer. Éventuellement, on l'a ramené en Égypte. Il a fini sa vie en Égypte. Sa fin n'était pas bonne. Il a enduré tant de choses. Parce que la condition du peuple, la condition du cœur du peuple était satisfaite. Rien ne pouvait le toucher. Et ça peut être aussi notre condition. Donc, quand nous lisons Jérémie, nous devons pleurer. Nous devons être touchés. Parce que c'est le cœur de Dieu. C'est l'angoisse de Dieu. C'est le cri de Dieu. À nous de nous réveiller. Réveillez-vous. Levez-vous. Tout ne va pas bien. Comme tu le pensais. Voilà. Donc un peu de maintenant, puisqu'il y a l'électricité, vous avez les grandes lignes, n'est-ce pas? Je vais suivre un peu. Un survol de l'histoire des enfants d'Israël, le peuple de Dieu. Est-ce que tout le monde a les... Si d'autres on a besoin, il y en a. Oui. D'Abraham jusqu'à Moïse. N'est-ce pas? Ça c'est un peu période, n'est-ce pas, de 2000 à 1400 avant Jésus-Christ. À peu près 600 ans, Dieu a appelé un homme, Abraham. Un vase. Il a appelé du monde, de la captivité, de l'idolâtrie, pour suivre Dieu. Pour laisser tout, son pays, sa famille, tout, pour suivre Dieu dans un pays qu'il ne connaissait pas, sans savoir où il allait. Dieu l'a formé, Dieu l'a suscité. Cet homme a connu Dieu. Même on l'a appelé l'ami de Dieu. Parce qu'il connaissait le cœur de Dieu. Amen. Et il a obéi à Dieu par la foi. Quelque chose en lui a répondu à Dieu. Il a cru en Dieu. Et Dieu l'a justifié. Et donc toute sa vie, c'était une vie de foi. Finalement, il a offert, il a sacrifié ce que Dieu lui avait donné comme promesse. N'est-ce pas? En Isaac, ta semence, ta prospérité, n'est-ce pas? Sera appelé, n'est-ce pas? Tu auras ta postérité en Isaac. Isaac, c'est ton fils promis.
Donc Isaac a né au dôme ni.
Isaac qui est un symbole de Christ, n'est-ce pas?
Isaac a né Christopher Nonoman.
Mais à un certain moment, Dieu lui a demandé de donner cette expérience de
Christ
à lui. Parce que tout appartient à Dieu. Christ appartient à Dieu. Ce que Dieu nous donne pour notre jouissance à un certain moment, nous devons la redonner à Dieu. Est-ce que nous sommes prêts? Abraham était prêt.
Abraham est à son cœur.
Ce qui était le plus cher, il a offert.
Et tu es connu.
Et Dieu l'a ressuscité, n'est-ce pas? Isaac, n'est-ce pas, a été selon quoi? Selon Romain, n'est-ce pas? Il a été ressuscité. De la mort. Bien qu'il ne soit pas mort physiquement. Mais aux yeux de Dieu, il était mort. Parce qu'il y avait un homme qui était prêt à donner à Dieu ce qui était le plus cher, le plus précieux. Donc voilà Abraham.
Abraham est là.
N'est-ce pas? Toute sa vie, c'était une vie de pèlerinage. Une vie de l'attente et de l'autel. Il n'avait aucune demeure fixe. Pas de maison. Pas de palais. N'est-ce pas? Non, une tente.
Abaddon.
Donc, quelqu'un qui était un nomade. Une vie nomadique, n'est-ce pas? Une vie d'un nomade.
Améye Tchatchala.
D'un errant.
Améye Tchatchala.
Alors, là où Dieu l'appelait.
Afie Maouyeya.
Et une vie de l'hôtel.
Nye, Fosafe Akbe. Fosafe Akbe.
Ça veut dire que toute sa vie a été consacrée à Dieu. Rien pour lui. Tout pour Dieu. Prêt à tout abandonner. À être consumé.
Et
réduit même en cendres jusqu'au
cendres.
N'est-ce pas? Rien pour lui-même. Un homme qui connaissait Dieu. Qui savait que la vie la plus glorieuse, la vie la plus significative, c'est une vie pour Dieu. Jusqu'à Dieu. Mais une vie méprisée. Inconnu, mal connu par les autres. N'est-ce pas? Donc, aux yeux du monde, une vie sans valeur, une vie méprisable, mais une vie pleine de valeur, mais de valeur invisible, n'est-ce pas? Il parcourait une terre, un pays qui lui appartenait, mais qu'il ne possédait pas encore. Selon Hébreux, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 11. Tous ces hommes de foi et femmes, hommes et femmes de foi, n'est-ce pas? Ils ont vécu une vie de foi. Une vie de promesse. Sans obtenir la promesse. Ils sont morts. et ils n'ont pas obtenu. Mais ils ont suivi, poursuivi quelque chose qui était invisible aux yeux du monde. Mais quelque chose qui était réel. N'est-ce pas, Abraham, il a cherché une ville. N'est-ce pas, une ville. Il a cherché une ville. Dont les fondations ou les fondements, n'est-ce pas, appartenaient à Dieu. Et dont le fondeur, et l'architecte était Dieu.
Amen.
Amen. Pas une ville physique. Aucune ville. Il n'avait aucune ville. Mais sa vie était une vie de ville. De construire, de poursuivre la ville de Dieu. Mais à la fin, il est mort. Sa femme est morte. D'abord. Il n'a même pas pu enterrer sa femme sans acheter un terrain. Mais la terre lui appartenait. Mais il a dû acheter un terrain pour enterrer sa femme. Donc, apparemment, n'ayant rien, mais en vérité, ayant tout.
Amen.
Ça, c'est la vie de foi. Mais Abraham était un vase, un individu. Amen. Éventuellement, c'était à travers son petit-fils,
Jacob,
qui a continué dans le même chemin, mais à suivre Dieu. Mais avec Jacob, Dieu a finalement réussi à susciter un peuple, pas seulement un individu. Donc, les 12 fils de Jacob, vous les connaissez, qui sont devenus finalement un peuple de Dieu pour exprimer Dieu. Et puis Moïse, n'est-ce pas? Dieu a appelé Moïse. Parce que ce peuple a été captivé, n'est-ce pas? A été captivé et rentré en esclavage en
Égypte.
Alors Dieu l'a sauvé à travers Moïse. Et c'est sous Moïse et le perfectionnement de Moïse que le peuple de Dieu a commencé à connaître son Dieu. 40 ans dans le désert. C'était une période de d'enseignement, mais aussi selon Jérémie, n'est-ce pas, les versets que nous avons lus, c'était une période de noces. Voilà, verset 2, c'est très touchant. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Ton amour. Quand tu me suivais au désert. Wow. Mais quand vous lisez Exode et Nombre, vous n'avez pas vraiment cette impression. Parce que maintes fois, à plusieurs reprises, les enfants d'Israël se plaignent. Ils murmurent. N'est-ce pas? Ils murmurent. Ils ne sont pas contents. Avec Dieu. Pourquoi? Ils demandent souvent pourquoi à Moïse? Pourquoi est-ce que tu nous as ramenés de l'Égypte? Pour mourir ici dans le désert. Il aurait valu mieux rester en Égypte. Au moins là, on pouvait manger. Ici, on n'a rien à manger sauf ce pain. Qui descend, oui, la manne qui descend tous les jours, mais c'est la même chose. La même chose, il n'y a aucune variété. Mais là, en Égypte, on avait de la viande. Du poulet, du beefsteak. Des choses, des oignons. Oh, de l'ail. Tout ça. Les bons vieux jours, n'est-ce pas? Les vieux jours. C'était un peuple de plaintes. Mais ici, dans la fille Jérémie, Dieu a une autre perspective.
Voilà, il
est content. Il dit, quand tu étais dans le désert, tu étais jeune. Tu étais amoureux. Comme un fiancé. N'est-ce pas? Ou comme un couple nouvellement marié. Oui, c'était. Tu m'aimais. Malgré tes plaintes. Et ça c'est, je peux dire que ça c'est parfois avec un couple, n'est-ce pas? Quand il y a des plaintes, normalement ça veut dire que le rapport est assez sain. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de
plaintes,
il y a, qu'est-ce qui arrive? Il y a de l'indifférence.
L'image ici, bien non.
Donc, le mari dit à la femme, bon, fais ce que tu veux. Et la femme dit au mari, fais ce que tu veux. Et chacun fait ce qu'il veut. Ça, c'est l'indifférence. Je te laisse tranquille. Et tu me laisses tranquille. Et on vit ensemble. Bon, mais est-ce qu'il y a de l'amour? Bon, mais vous allez dire, bah, est-ce qu'il y a de l'amour quand on se plaint? Ben non, je ne dis pas, plaignez-vous. Non, c'est... Mais je veux dire que souvent, les plaintes veulent dire que vous vous souciez de l'autre personne. Ça vous concerne, n'est-ce pas? Donc quand ma femme... Elle me reproche souvent. Ou elle me dit, même quand je voyage en Afrique, pourquoi est-ce que tu ne me téléphones pas? Mais je lui dis, j'essaie de te téléphoner, mais je ne peux pas te téléphoner tous les jours. Parce que ce n'est pas comme les États-Unis où il y a de l'Internet. Et même, je souhaite parfois que elle ne me dérange pas. N'est-ce pas? Mais ça veut dire qu'elle-même Elle s'occupe de moi. Elle se soucie de moi. Pour moi, c'est une plainte. Ça a l'air d'être une plainte. Mais si elle me disait, ok, vas-y, fais ce que tu veux. Ah, je me sentirais très très. C'est-à-dire que quand elle se plaint, c'est beaucoup mieux que si elle ne disait rien. Si elle ne disait rien, moi je voudrais éventuellement qu'elle dise quelque chose.
Vous
voyez? Ça veut dire qu'il y a de l'amour. Bon, ça ne veut pas dire que, bon, ne dites pas à votre mari ou pas, ok, voilà, plaignez-vous. Non, je ne dis pas ça. Mais les plaintes, n'est-ce pas, ce sont l'expression, n'est-ce pas, d'un sentiment de l'intérieur.
Et
bien sûr, les plaintes doivent être touchées par le Seigneur. Mais quand il y a de l'indifférence, de la froideur, ça c'est grave.
Et il y a de fou.
Et ici, c'est ça la condition du peuple. Donc, avec David, éventuellement avec David.
David
était un homme plein d'amour pour le Seigneur.
David
un homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui s'est soucié du désir de Dieu. Dieu habite, moi j'habite dans une maison, dans un palais. Dieu n'a, n'est-ce pas, il n'a rien là où il puisse habiter. Il n'y a aucune demeure. Sauf une tente, n'est-ce pas? Alors, Dieu s'est étonné. Il a dit à son prophète, qui a dit à David? Qui? Je n'ai jamais dit que j'avais besoin d'une demeure. Ça veut dire que David a pu cerner le cœur de Dieu. Voilà un homme amoureux. Un homme qui connaît, n'est-ce pas, sa femme. Quand vous connaissez votre femme, ou votre femme, la femme connaît le mari, souvent, on n'a pas besoin de verbaliser, de dire ce qu'on veut. La femme ou le mari sait instinctivement. Parce qu'on se connaît. Donc David connaissait Dieu.
David a Jesse Mao.
Et il a donné sa vie, il a combattu pour Dieu. Il s'est occupé du rassemblement des matériaux de la maison de Dieu. Il a rassemblé toutes les richesses. Et puis finalement, il n'a pas pu la construire.
Voilà nous où mettez tout à pied.
Mais il a tout préparé. Ça, c'était, on peut dire, la vie de l'Église. À son apothéose. La vie de l'Église, les saints, tous les frères et les sœurs qui aimaient le Seigneur. qui était prêt à suivre le Seigneur,
à tout
donner. Leur vie quotidienne correspondait à, n'est-ce pas, à ce qu'ils disaient. Donc David, même David,
David a...
sa vie quotidienne correspondait à ce qu'il a vu. Est-ce qu'il a péché? Oui. Il a beaucoup péché. N'est-ce pas? Il était pécheur, comme nous. Mais il s'est repenti. Donc, il était conscient de son péché. Quand on l'a touché, n'est-ce pas? Quand Dieu l'a touché, David, vous lisez les psaumes, n'est-ce pas, psaume
51.
C'était une repentance sincère, une repentance, pas seulement une repentance des lèvres, mais une repentance de cœur. Toute sa vie a été changée à cause de son péché. Il a dû payer le fruit de son péché. Oui. Mais voilà un homme, un vase que Dieu a suscité. Avec lui, il n'y avait pas de satisfaction. N'est-ce pas? Je suis satisfait. Et chaque fois qu'il y avait cette tendance, Dieu l'a touché. Et David s'en est repenti. Avec David, il y avait toujours le désir de lutter pour le Seigneur. D'avancer. D'aller un peu plus loin. De ne pas être content. J'y suis arrivé. Non, je veux aller un peu plus loin. Mais après David, à partir de Salomon, je dirais que c'est là, à ce moment-là, que la chute commence. Peut-être que vous direz, bah, Salomon, c'était le roi le plus sage. Le plus glorieux. Et c'est lui qui a construit le temple, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais en lisant l'Ancien Testament encore, j'étais frappé par Salomon. Tout le monde pense que Salomon était riche, le plus riche, l'homme le plus riche. Pas vrai. David était l'homme le plus riche. Si vous comparez la quantité, la valeur de l'or que David, je n'ai pas le verset avec moi, mais peut-être à la maison vous pouvez, je le trouverai peut-être demain, je vous le dirai. L'or que David avait accumulé était plus que l'or que Salomon avait accumulé. Il y a un verset qui sauf que Salomon, tout ce qu'il a fait est bien raconté, et vraiment est raconté et décrit.
Salomon lui a dit,
et il a bien fait. Et comme ça, il est c'est un type de Christ. Oui, un portrait de Christ. Mais tout ce qu'il a fait était à cause de David. de la lutte, de la de l'œuvre de David.
David
du prix que David a payé.
David
Salomon n'a payé aucun prix. Bon, il a vécu sa vie basée sur les richesses de David. La preuve, c'est vers la fin de sa vie. Où il est, bon, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Il a épousé plusieurs femmes. Et son cœur a été détourné par les idoles. Un homme qui a demandé, qui a prié Dieu, n'est-ce pas? Pas pour une longue vie. Pas pour des richesses, mais pour de la sagesse. Et Dieu l'a honoré. Mais éventuellement, son cœur s'est éloigné. Mais pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas si la Bible le dit. La Bible ne le précise pas. Bon, la Bible dit que. Mais le cœur de Salomon a été détourné. N'est-ce pas? Mais pourquoi? Moi, je dirais, selon mon observation, Salomon n'a pas lutté, n'a pas eu l'occasion de lutter.
Moi, je commence à me dire, je vais vous lire.
Pour quelque chose qui était à lui. Tout lui est arrivé automatiquement. Et il a très bien construit, il a très bien exécuté. Ce qui lui a été donné. Mais à un certain moment, il est devenu satisfait. Content. Mais il avait tout. N'est-ce pas? Un homme qui a. Il connaissait tous les proverbes. Tous les maximes. Bon, enfin les proverbes. Oui. Il pouvait discourir, il pouvait parler. C'était une encyclopédie de connaissances. Il a écrit les proverbes. Ecclésiaste. Le cantique des cantiques. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui manquait? Tout le monde, même la reine de Sheba, n'est-ce pas? Elle est venue, elle a dit, je me tais, je n'ai plus rien à dire. Alors, pour Salomon, il n'y avait rien d'autre. Il ne pouvait plus avancer. Et quand on ne peut plus avancer, il n'y a qu'une chose à faire. Et ça, c'est de reculer. On ne peut pas. Oui, soit on avance, soit on recule. Mais on peut dire que non, je ne vais ni avancer ni reculer. Je vais rester ferme, immobile, sans avancer, sans reculer. C'est bon en théorie. Mais en pratique, ça ne marche pas comme ça. Dans la vie spirituelle, on avance ou on recule. Et si on n'avance pas, on va forcément reculer. Ce qu'on a reçu, on doit avancer. On doit lutter pour que ça devienne le nôtre. Salomon n'a pas lutté. il n'a pas vu le prix que son père avait payé. Et donc, il a reculé. Et ça, c'était le début de la chute. Si vous suivez l'histoire de, du peuple d'Israël à partir de ce moment, c'est comme du haut jusqu'en bas, une ligne. Il n'y a qu'une descente, une pente, n'est-ce pas, qui descend. Oui, il y avait des rois, plusieurs rois qui étaient bons, les rois de Juda. Mais en gros, c'était une chute. Et ça, frères et sœurs, ça c'est la captivité. C'est le commencement de la captivité. Donc le sujet, n'est-ce pas, de ce cette semaine, la semaine prochaine, c'est la captivité. On n'aime pas être en captivité. Mais le problème, c'est que nous sommes en captivité. Si notre cœur, si nous sommes, si nous n'avançons pas, si nous sommes contents, nous sommes satisfaits, nous allons tomber. Même dans le monde, dans le péché,
le nouveau monde,
dans les choses terrestres, avec toutes les richesses que nous avons, avec toutes les connaissances que nous avons, nous allons finir tomber comme les enfants d'Israël. Mais comment est-ce possible? Mais c'est très bien, c'est très possible.
C'est fort.
Jérémie, il est très clair.
Donc,
brièvement, donc, éventuellement, Dieu a envoyé le roi de Babylone.
Nebuchadnezzar.
Ce fameux roi de Babylone.
Babylone Befia.
Si vous lisez Daniel, vous allez faire sa connaissance. C'est un roi utilisé par Dieu pour châtier le peuple de Dieu, pour l'amener en captivité, n'est-ce pas? Et la première captivité ou la première invasion, Daniel a été amené en captivité.
Daniel, hein,
parmi les jeunes, beaucoup
de
ceux qui étaient très prometteurs, n'est-ce pas, les étoiles de la société.
Et du quoi, le trivi?
Les jeunes, les intellectuels, les hommes, les savants ont été amenés en captivité. Et puis la deuxième captivité, 11 ans, à peu près 11 ans plus tard, Ézéchiel, le prophète Ézéchiel a été amené en captivité. Là où il a écrit Ézéchiel, en captivité. Finalement, la troisième invasion Nebuchadnezzar, il s'est mis en colère. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone.
Nebuchadnezzar, Babylone Befia.
Il est venu la troisième fois en colère à cause de la rébellion des enfants de Juda. Et il a détruit le temple. Il a détruit la ville de Jérusalem. Et il a ramené en captivité le reste du peuple. Et ceux qui sont restés en Judée, Plusieurs d'entre eux sont allés en Égypte, y compris Jérémie a été forcé, obligé de les accompagner. Mais toujours en disant, ne résistez pas, laissez-vous, n'est-ce pas, amener. Laissez-vous être amené en Babylone. N'allez pas en Égypte. Vous souffrirez plus en Égypte qu'en
Babylone.
Ça, c'était la fin, n'est-ce pas? La fin de, on peut dire, la fin de la période de liberté du peuple de Dieu.
Nous,
on peut dire que la vie de l'Église, c'est fini. C'est fini. C'est perdu. Et donc, voilà le fardeau. N'est-ce pas? Voilà le fardeau. Mais la conséquence, la captivité en Babylone,
le Babylone,
c'était le produit. C'était le produit de la réalité qui existait bien avant. C'était déjà, le peuple de Dieu était déjà en captivité. Et donc, nous aussi, nous pouvons avoir tout. Nous avons, n'est-ce pas, la vie de l'Église. Nous avons quoi? Nous avons la Bible. La parole de Dieu. Nous avons les réunions.
Hein?
Nous avons tous les services. Nous avons toutes les formes. Nous avons, on peut dire que même le bon terrain, le terrain de l'unité. N'est-ce pas? Nous sommes un. Nous nous rassemblons sur le terrain de l'unité. Mais il peut manquer quelque chose. Et c'est ça à quoi, c'est ça à quoi Dieu s'adresse. Jérémie, en Jérémie, la condition du peuple est démontrée. La plainte de Dieu, c'est que d'une part, le peuple adorait Dieu.
Le Godemia du quoi nos mausubons
de l'extérieur.
Le Gotagome.
Mais à l'intérieur,
voilà un mea.
Il adorait d'autres choses.
Voilà nous mausubons.
Voyez, donc semblablement, c'était
le nous papons noirs.
Oui, il semblait que le peuple adorait Dieu. Mais secrètement, il vivait une autre vie. Et voilà, donc Dieu est très, il est très sarcastique, il est très, très ironique. Il dit, il est très, oui, il est très ironique ou sarcastique. Il est c'est qu'il dit quelque chose, n'est-ce pas, mais avec un autre sens. Par exemple quelqu'un qui un jeune qui vient qui dit, ah, moi je connais, moi je suis expert. Par exemple, il dit au frère Bernard, je suis expert en informatique.
Ordinateur.
Et puis, frère Bernard pourrait dire, lui dire, ah, donc tu connais tout. Ça, c'est sarcastique. Tu connais tout. Non, il ne connaît pas tout. Mais c'est comme si, de la manière dont il se démontre, c'est comme si c'est quelqu'un qui connaissait tout.
Ça, c'est
voilà, être sarcastique. Donc Dieu est très sarcastique.
Il
dit, au moins les enfants d'Israël, le royaume du Nord, eux, ils m'ont catégoriquement renoncé. Il faut être honnête. Donc, si tu ne me veux pas, dis-le. Sois honnête. Mais Judas, parce qu'il parle à Judas, n'est-ce pas, Judas?
Elle appelle nous pour nous Judas, yo.
Judas, toi, tu es perfide. Tu es. Tu es plein de perfidie. Tu dis une chose. Oh, je suis pour toi. Mais enfin, en fait, tu es adultère. Tu es comme une femme ou un mari qui fait semblant d'aimer son conjoint, mais secrètement
a une
maîtresse.
Et
donc, il dit que même les nations, ils sont plus fidèles que toi. Eux, au moins, ils ne changent pas leur Dieu. Comme vous. Oui, ils sont plus fidèles, n'est-ce pas? Mais vous, vous changez, vous me changez, vous me substituez. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ça c'est la plainte de Dieu. L'hypocrisie du peuple de Dieu. Donc, dans notre vie, est-ce qu'il y a de l'hypocrisie? Dans ma vie, je dis une chose. Où je fais semblant de vivre d'une certaine manière. Mais secrètement, chez moi, est-ce que je vis une autre vie? Mais tout semble bien. Et même personne ne saurait. Parce que je sais très bien, parce que je suis habile, et j'ai de l'expérience dans la vie de l'Église. Je peux cacher. Je sais cacher. Ma vie cachée. Ma vie intérieure. Ma vie privée. Donc Dieu veut nous toucher. Il veut toucher notre vie. Notre manière de vivre. La vie de l'Église, telle que nous la voyons, est basée sur la vie privée. La vie, la manière de vivre. N'est-ce pas? Les réunions, les rassemblements sont l'expression de notre vie intérieure. Les louanges que nous donnons au Seigneur dans les réunions sont le fruit de notre, devrait être le fruit de notre vie. Mais si je fais des choses honteuses à la maison. Dans ma vie privée. Et j'ose venir prononcer des louanges. Nous devenons justement comme le peuple ici en Jérémie. Dieu dit, ce peuple m'honore avec ses lèvres. Mais son cœur est loin de moi. Voilà. Donc, voilà un peu notre fardeau. C'est juste bon, la première réunion, une introduction.
Bon.
Mais nous voulons toucher beaucoup de choses. Pour que notre vie, notre manière de vivre puisse vraiment être un avec ce que nous vivons, ce que nous exprimons.
Amen.
Amen. You want to share? Yeah. Amen. Je peux m'arrêter peut-être. You want to share a little bit? Yeah. Yeah. Yeah.
It's okay.
Are you sure?
Yeah.
Yeah. Parce que ok, je voulais laisser un peu. Mais nous allons aborder ce sujet. Traiter la captivité. Qu'est-ce que ça veut dire être en captivité? Comment est-ce que nous disons, nous pratiquons quelque chose, nous disons quelque chose, mais nous pratiquons quelque chose d'autre? N'est-ce pas? Et moi, souvent, j'apprends. J'apprends, je me reprends. Parce que, et c'est bien d'être dans la lumière. Le pire, c'est de penser qu'on va bien. Le pire, c'est de croire que qu'on n'a pas besoin. D'autres choses. Je suis content de ce que j'ai. Et donc, dans la vie de l'Église, il y a des frères, il y a des frères et des sœurs qui sont fidèles à nous avertir. Même qui est la meilleure personne? C'est notre conjoint. Notre femme ou notre mari. Pour nous avertir. Parce qu'ils nous connaissent le mieux. Pour nous dire, toi, ce que tu dis ne correspond pas à ce que tu pratiques. Donc, ça c'est la lumière.
Seigneur.
On n'aime pas la lumière. On préfère, comme la Bible dit, on préfère être dans les ténèbres. N'est-ce pas? Même quand il n'y avait pas d'électricité. D'une part, on voulait, n'est-ce pas, de l'électricité. D'autre part, on peut être assez content. Parce que dans les ténèbres, je peux faire n'importe quoi. Mais je peux dormir même. Et personne ne saura. Parce qu'on ne veut pas être exposé, n'est-ce pas? Dans les ténèbres, même, peut-être qu'on peut penser même, ah, il n'y aura plus de réunion. Alors, on peut rentrer chez soi. C'est comme à l'école, n'est-ce pas? S'il n'y a pas d'électricité, je ne sais pas ici en Afrique, peut-être pas, mais aux États-Unis. S'il n'y a pas d'électricité, s'il y a une panne d'électricité, oh, on va faire ramener les enfants à la maison. Oui. Ben, enfin, mais maintenant, bon, il y a des générateurs. Oui, donc ça peut aller, oui.
Il y a un groupe aussi.
Mais quand il y a quelque chose d'imprévu, comme une tempête de neige, pas ici, mais on est aux États-Unis, oui, on ferme les écoles. Si c'est vraiment une grande tempête de neige. Donc, quelque chose d'imprévu,
n'est-ce
pas? On n'aime pas. Donc, d'une part, on aime. Parce que on peut faire ce qu'on veut. Mais quand la lumière arrive, la lumière expose, éclaire ce que vous ne voyez pas dans les ténèbres.
Et
même ce que vous ne voulez pas voir. Donc, il y a certaines choses dans ma vie que je ne veux pas voir. Parce que je pense que je fais assez bien. J'ai fait assez de bonnes choses dans ma vie de l'église. Pour quoi? Pour contre-équilibrer les mauvaises choses. Alors, si il y a un péché, n'est-ce pas, secret, intérieur, c'est facile de me justifier en disant, oh, mais ça c'est ma faiblesse. C'est ma faiblesse. Ce n'est pas vraiment, bon oui, c'est un péché, mais c'est un péché... C'est pas un gros péché. Et je ne le fais pas assez souvent. Ben, on a toutes sortes de moyens de se justifier. Parce qu'on ne veut pas reconnaître, Seigneur, je suis pécheur. Seigneur, mais plus on vieillit, plus on dans la vie de l'église, plus on ne veut pas, plus on ne veut avouer. Ceux qui sont nouvellement sauvés, ou les jeunes, oui, ils sont les premiers à reconnaître. N'est-ce pas? Parce que quand on les fait savoir, mais plus on vieillit, c'est plus difficile. Donc on a besoin de la miséricorde du Seigneur.
Amen.
Pour que le Seigneur puisse nous éclairer. Pour nous montrer notre condition réelle. Qui sommes-nous? À la maison, avec ma femme, au travail, avec mes collègues. Quand j'ai un peu de temps libre, comment est-ce que j'utilise mon temps?
Vous
voyez, toutes sortes de choses, et c'est un exercice. Même quand je voyage dans l'avion, n'est-ce pas, il y a toutes sortes de choses, n'est-ce pas, qu'on offre, n'est-ce pas, à manger, à boire,
à
regarder,
à quoi.
J'ai un choix. Comment est-ce que je vis ma vie dans l'avion? Mais personne ne saura, n'est-ce pas? Mais Dieu le sait. Et moi je le sais. Mais le problème c'est que je ne veux pas avouer, reconnaître. Et vous seriez étonné les raisons qu'on se donne. Je suis fatigué. Je veux me détendre un peu. N'est-ce pas? Donc je boirai quelque chose, un peu, un petit. Oui. Ben ça c'est. Oui, c'est. Voilà. Je parle. Je dis des choses que nous pensons, n'est-ce pas? Que nous connaissons. Je regarderai quelque chose à la télé ou j'irai quelque part, mais c'est juste pour me détendre. Ce n'est pas ma vie normale, ce n'est pas ma vie habituelle. Le problème c'est que quand nous ouvrons la porte à quelque chose, petit à petit, il y a quelque chose qui entre et qui commence à rester avec nous. À notre insu, nous ne sommes même pas conscients de ça. Mais cette chose est rentrée pour nous éloigner, pour nous tromper. Et elle reste avec nous pendant que nous faisons les choses pour Dieu. Pendant que nous servons apparemment le Seigneur. Donc, les enfants de Judée, n'est-ce pas? Il disait, nous avons le temple, nous avons les sacrifices, nous avons la loi, tout ce que Dieu nous a donné, nous les avons tous. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Et Dieu dira, j'en ai marre de vos sacrifices, de vos offrandes, de vos prétentions, de vos expressions de dévotion. Vos expressions de service, de consécration. Vos offrandes, vos sacrifices ne veulent rien dire. Moi, j'ai pas voulu, n'est-ce pas, les sacrifices. J'ai voulu plutôt de l'obéissance. N'est-ce pas? Je désire de la miséricorde, pas de sacrifice. Et donc, ces enfants-là, ils faisaient des sacrifices d'une part. Mais d'autre part, ils maltraitaient leurs frères. Ils tuaient même, ils exploitaient d'autres personnes. Ils sont devenus les gardes. Donc éventuellement dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas, avec les pharisiens. Ils sont devenus les gardiens de la loi. Le Seigneur leur a dit, vous êtes les gardiens de la loi. Ou les gardiens du royaume. Mais vous ne laissez pas entrer les autres. Donc, tout a été perverti. Au nom de Dieu. Parce que la vie privée, la vie, n'est-ce pas, la manière de vivre n'a pas été touché. Donc, le pharisien qui a prié, Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce publicain. Et ça peut être notre prière aussi. Peut-être pas ouvertement. Mais nous le pensons. Je ne suis pas comme lui. Je
ne
suis pas comme elle. Non, lui, il est pire que moi. Éventuellement, tout le monde est pire que nous. Non, nous avons besoin de nous repentir. Amen. La miséricorde du Seigneur. Pour que le Seigneur puisse nous éclairer.
Amen.
Amen. Amen.